Alors peut-être pour ceux qui nous visitent et qui ne sont pas forcément familiers, eh bien chaque année scolaire, nous souhaitons prendre un livre biblique et parcourir ce livre biblique tout au cours de l'année scolaire au travers de différentes présentations. L'an dernier, nous avions regardé le livre de l'Évangile selon Luc avec une approche un peu thématique. Et comme souvent, nous aimons bien alterner les livres de l'Ancien et les livres du Nouveau Testament. Cette année, nous retournons dans l'Ancien Testament au travers du livre des Rois, qui est le livre qui a reçu le plus grand nombre de votes. Alors, je ne dis pas que Vox Populi, Vox Dei, mais enfin, voilà, nous avons fait un sondage et le livre des Rois est apparu comme étant le livre que plusieurs d'entre vous souhaitaient que nous regardions. Et c'est donc ce livre dont je vais faire rapidement l'introduction. Au travers donc de trois parties. Tout d'abord, quelques généralités sur ce livre des rois. Comment pouvons-nous aborder un tel livre et comment pouvons-nous le lire de façon pertinente? Et puis, finalement, je vais terminer par cette expression Jésus, le seul espoir, pour essayer de donner un peu le sens global de ce livre et même en allant même au-delà. Nous avons l'habitude de classer le livre des rois parmi les livres historiques. Or, la division de la Bible que nous avons dans beaucoup de nos éditions n'est pas la même division que celle de la Bible hébraïque. La Bible hébraïque répartit les livres en trois parties, la loi, la Torah, les prophètes, les Nébihim et les écrits, les Kétubim. Et ça donne la Tanakh. Si on prend la première syllabe de chacune de ces trois parties. Et cette division en trois parties est même reconnue par Jésus, puisque en Luc 24, verset 44, si mes souvenirs sont bons, Jésus parle de la loi, des psaumes et des prophètes. Donc nous retrouvons les trois parties ici. Et pour les Juifs, le livre des rois, de la même manière que le livre de Josué, des Juges et de Samuel, font partie de ce qu'ils appellent les premiers prophètes. Les premiers prophètes. Et donc, avec ce livre-là, nous allons avoir un message qui est certes historique, puisqu'il va nous décrire des événements qui se sont passés dans l'histoire humaine, et en particulier dans l'histoire du peuple d'Israël, mais avec une visée prophétique. Cette visée, pour parler, si je prends 1 Corinthiens 14, verset 3, à notre cœur, pour notre encouragement, notre consolation et notre avertissement. Et donc c'est comme cela qu'il nous faut, me semble-t-il, aborder ce livre des rois d'abord et avant tout, non pas simplement comme un livre qui va nous informer de ce qui s'est passé du temps de Salomon ou d'Ézéchias ou d'Akab, mais d'abord un livre qui va avoir un message prophétique pour chacun d'entre nous. Si je vous posais la question, quel est le plus long livre de la Bible? Qu'est-ce que vous me diriez? Les psaumes. Autre proposition? Non, les psaumes? Ésaïe, voilà. Eh bien, vous avez tout tort. Parce que le plus long, c'est les rois. Ah non, alors justement, ça je vais y revenir. La division en deux, elle est artificielle et récente. Donc, c'est bien le livre des rois, j'y reviendrai là-dessus. Vous voyez, le livre des rois, ensuite quasiment ex aequo Chronique et Samuel, ensuite Jérémie, ensuite la Genèse, et ensuite les psaumes. En nombre de mots dans le texte hébraïque, les psaumes sont sixièmes. Alors, bien sûr, on dit qu'il y en a 150, sauf qu'il y en a qui font deux versets, donc c'est normal que ce soit court. Bon, il y en a un qui fait 176, mais il y en a quand même beaucoup de courts. Donc, vous voyez qu'en nombre de mots, eh bien, nous sommes sur un gros morceau. Puisque c'est même le plus gros morceau de l'Ancien Testament, 8,3% très exactement du nombre de mots de l'Ancien Testament. Donc un gros livre que nous avons à regarder. Alors si maintenant nous en venons à quelques généralités, le titre du livre en hébreu c'est simple, il s'appelle Melakim, ce qui se traduit par roi, hein, Malek, Melak, vous voyez, c'est MLK, ces lettres qui sont reliées à la royauté. Et en grec, c'est le troisième et quatrième livre des règnes, puisque le premier et le deuxième livre des règnes, ce sont les livres de Samuel. Donc, cette division en deux du livre des rois, hein, d'ailleurs, un roi et deux rois, elle vient justement de cette division qu'a opérée la Septante, donc la traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu en grec, qui avait divisé en deux. Et on peut bien penser que cette division, elle est purement mécanique, c'est-à-dire que c'était des rouleaux. Eh ben, il fallait deux rouleaux parce que c'était un très gros livre, donc on a pris deux rouleaux puis on a divisé à peu près la moitié. Mais cette division n'a pas de sens théologique, n'a pas de sens scripturaire, hein. Donc il faut arrêter de penser en roi et deux rois. Alors on va continuer à y penser parce que sinon on ne va pas se retrouver dans les chapitres. Mais dans la réalité du livre, c'est bien un seul grand livre. D'ailleurs, la division, elle est bizarre puisqu'elle se fait au milieu du règne d'Acasia. Si vous regardez, elle n'a même pas de sens, je dirais, par rapport au déroulé du texte. C'était peut-être à la fin du rouleau, bah, le copiste, hop, il s'arrêtait là, il a pris un nouveau rouleau, puis il est reparti. Voilà. Alors, comment pourrait-on appeler le livre des rois? On pourrait l'appeler le livre de la décadence des rois, en dépit du ministère des prophètes qui aboutit aux deux exils. Alors, je ne vais pas vous décourager d'aller dans une autre église quand il y aura annoncé qu'on va étudier le livre des rois tel dimanche, mais c'est pas un livre très drôle parce que ça se termine mal. Je spoil déjà le chapitre 25 de Deux Rois. Hein. Ça se termine mal et puis ça se passe même assez mal au milieu. Et donc c'est pas forcément quelque chose de très. C'est pas la gloire des rois, c'est la décadence des rois. Hein. Et malgré tous les efforts que Dieu a faits pour ramener son peuple. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, qui c'est qui a écrit le livre des rois? Ce que l'on voit, c'est que parfois, nous avons des phrases du type « Le reste des actes de Jéroboam, comment il fit la guerre et comment il régna, voici cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Le reste des actes de Roboam et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? » Les rois, tant d'Israël que de Juda, avaient des chroniqueurs qui répertoriaient tout ce qu'ils avaient fait. Et parfois, le compilateur, puisque le livre des rois, c'est un compilateur essentiellement, a emprunté à ces différents écrits historiographiques de l'époque des passages, et ce qui explique qu'on a parfois des choses qui nous semblent être très, très vivantes, comme si c'était quelqu'un qui avait pris des notes sur la bataille même ou sur le moment même. Hein. Parce que tout cela avait été historiographié. Et puis, nous trouvons aussi des parallèles très frappants avec les écrits des prophètes. Si vous prenez les chapitres 18 et 19, eh bien, vous retrouvez quasiment mot pour mot Ésaïe 36 et 37. Et Deux Rois 25 se retrouve aussi quasiment mot pour mot en Jérémie 52. Alors, beaucoup de spéculations ont été développées sur qui a pu rédiger ce livre des rois. L'hypothèse qui est retenue par les rabbins juifs, c'est que ce serait Jérémie, peut-être parce que le dernier chapitre correspond au dernier chapitre de Jérémie. L'état d'esprit global du livre des rois correspond pas mal à Jérémie. Et donc, pour ma part, je trouve que c'est une hypothèse qui a pour elle, même si on ne pourra jamais la prouver à 100%, que Jérémie aurait, sans doute lors de sa phase où il est resté dans le pays après que l'essentiel du peuple a été déporté en Babylonie et avant qu'il descende en Égypte, aurait collationné un petit peu tous ces écrits-là pour justement montrer pourquoi on en est arrivé là. Et donc aurait mis ensemble ces chapitres pour constituer le livre des rois. Le plus long livre de la Bible. Donc on va peut-être avoir essayer de le diviser, d'avoir un petit plan clair dans sa tête. Alors, je vous ai mis ici un petit graphique. Ici, vous avez donc les 22 chapitres de Un Roi, les 25 chapitres de Deux Rois, mais vous aurez remarqué que je n'ai même pas fait de trou entre les deux, pour que vraiment vous ayez en tête que ce n'est pas important la division en deux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans les 11 premiers chapitres, le royaume d'Israël est unifié. Puis dans les chapitres 12 à 2 Rois 17, eh bien, on a en parallèle le royaume du nord, Israël, le royaume du sud, Juda, divisé. Et puis, à partir du chapitre 18 jusqu'au chapitre 25, on a le royaume de Juda. Donc, vous voyez, ça donne trois parties assez simples. 1, 2, 3. Et après, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans cette longue partie centrale, donc qui couvre ici 11 plus 17, 28 chapitres, il y a deux personnages qui apparaissent, qui sont Élie et Élisée, qui ont une place prééminente. Donc on va se dire, ben, peut-être on pourrait prendre un avant ce ministère, le ministère, ici après et là après. Et ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que cette partie centrale, elle est surtout centrée sur les rois du nord, que je vous ai mis ici en rouge. Les rois du sud de Juda, donc les rois de Jéroboam à Akaz, eh bien finalement, n'interviennent que assez marginalement ou en contrepoint de ce qui se passe dans le nord. Et ce n'est qu'après que le royaume du nord a disparu que les rois du royaume du sud prennent bien évidemment la première place. Ce qui fait que plan chronologique que je... Ah oui, encore un truc aussi qui était important, c'est que ici, vous voyez que parfois, il y a des rois qui prennent beaucoup de place. Par exemple, Akab, on va le voir pendant plein de chapitres. Et en fait, ce que l'on sait de l'histoire globale, c'est que Akab n'a pas été un roi si important que ça. Son père, Omri, était beaucoup plus important, puisque d'ailleurs, on a trouvé des inscriptions assyriennes où il était question d'Omri, mais pas trop d'Akab. Un autre roi aussi très important, c'est Jéroboam II, 6 versets. 6 versets pour Omri, 6 versets pour Jéroboam II, alors qu'il a régné 45 ans, son règne a été important, qu'il y a eu des avancées, etc. Donc on voit bien que l'objectif du collationneur du Livre des Rois, ce n'est pas de faire une histoire qui colle exactement avec ce qui s'est passé et l'importance proportionnelle historiquement parlant, mais d'avoir un message prophétique. Ça, s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez à la fin de cette matinée, c'est ça. Alors donc, par rapport à cette division du livre et des ministères relatifs, qu'est-ce que je vous propose? Eh bien, je vous propose un plan chronologique avec donc 5 parties, pour faire simple. Le règne de Salomon sur Israël uni, les 7 plus 3 premiers règnes sur Israël divisés. Pourquoi 7 plus 3? 7 rois du nord d'Israël, 3 rois du sud de Juda. Ensuite, le ministère prophétique d'Élie et d'Élisée pendant les règnes de la maison d'Akab. Ensuite, les 7 plus 4, là aussi, 7 rois d'Israël, 4 rois de Juda, sur Israël qui reste divisé. Et ensuite, les 8 derniers règnes sur Juda. Voilà, je vous ai déjà indiqué plusieurs éléments par rapport à ça. Alors, je ne vais pas vous donner le plan détaillé de toutes les sous-parties. Si cela intéresse certains, je pourrais le faire. Mais juste peut-être pour vous donner une idée, c'est que le livre est quand même construit de façon extrêmement sophistiquée. Si vous aviez payé un kiasse, vous auriez été déçu. Donc, extrêmement sophistiqué et de façon aussi théologiquement orientée. Et typiquement, là, vous voyez sur la partie qui concerne Salomon, donc la partie grand A, eh bien, nous trouvons assez facilement, me semble-t-il, 7 parties qui se répondent avec l'instauration du règne qui correspond à la fin du règne et au déclin. La sagesse et la puissance de Salomon, qui correspondent à la sagesse et la puissance de Salomon, chapitre 10, la construction du temple et les autres constructions de Salomon, et au centre, cette dédicace du temple et ce renouvellement de l'alliance davidique que nous trouvons dans les chapitres 8 jusqu'au début du chapitre 9. Et cela, c'est tout à fait cohérent avec le plan global de 1 de Samuel, qui met aussi le chapitre 7 au milieu. Voilà. Puis vous avez des justifications de l'autre côté, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour les autres parties de 1 de Roi, ce que je vous encourage à faire, si vous lisez le livre, et je pense que ce serait bien de lire le livre avant d'avoir les présentations qui vont se succéder au cours de cette année scolaire, c'est de noter le rôle important des notices des rois. Souvent, ça marche comme ça. Et Nadab, fils de Jéroboam, commença de régner sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. En fait, on a les dates de un roi du nord par rapport à un roi du sud ou d'un roi du sud par rapport à un roi du nord. Et il régna sur Israël X années, il fit ce qui est bon ou ce qui est mauvais. En général, malheureusement, il a plutôt fait ce qui est mauvais. Aux yeux de l'Éternel, il marcha dans la voie de son père et dans son péché dans lequel il avait fait pécher Israël. Et le reste des actes de Nadab et tout ce qu'il fit, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Et puis aussi, très important, c'est qu'on a des prophéties intercalaires qui se réalisent. Ça nous montre que la force de la parole prophétique, c'est que le fait que Dieu ait annoncé des choses et que ça s'est réalisé quelques décennies ou quelques siècles après, dans le même livre des rois, ça nous montre que ce que Dieu a annoncé pour la suite, eh bien, va aussi se réaliser. Et puis, vous avez des portions qui sont importantes à la fin du chapitre 13, au chapitre 17 et au chapitre 24 de 2 Rois, parce que ça va nous donner les raisons théologiques de l'exil. Et donc, ces notices-là, qui sont sans doute de la main du rédacteur final, ont une importance toute particulière. À quel moment tout ça se passe-t-il? Eh bien ici, vous avez un tigre diagramme chronologique et le livre des rois se déroule sur une longue période de temps. Hein. On est sur 454 ans. Donc ça fait long. Hein. Si on se remet à aujourd'hui, ça nous ramènerait à peu près à la Saint-Barthélemy, vous voyez. Donc la Saint-Barthélemy jusqu'à aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur si on transpose en se mettant à notre position. Et donc, pendant 390 ans, il s'est déroulé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très intéressant, je prends la chronologie dite très longue qui a été établie par Roger Libby et qui vraiment me convainc de plus en plus. Et donc, vous avez le règne unifié 40-40-40 entre Saül, David, Salomon, et puis 390 années pour le royaume d'Israël et de Juda, ici, je suis désolé, il y a une typo, c'est de Juda, le royaume d'Israël, lui, s'arrêtant en 722, et puis la déportation. Et alors, ce que vous voyez aussi, c'est que le livre des rois est en parallèle avec une bonne portion du livre des chroniques. Mais le chroniste va avoir une autre approche. Et donc, ce que je nous encouragerais à faire dans l'étude de ce livre des rois, c'est d'étudier le livre des rois pour lui-même. Alors, bien sûr, ça peut être intéressant de faire des parallèles avec le livre des chroniques, mais chaque livre a une visée. Et à trop regarder et à essayer de faire une histoire combinée des deux, eh bien, il me semble qu'on perd la spécificité que l'Esprit de Dieu a voulu donner pour chacun de ces livres. Et donc, nous allons étudier le livre des rois, pas le livre roi chronique, même si, de temps en temps, ça sera peut-être intéressant d'avoir un petit détail pour éclairer au travers du livre des chroniques. Voilà donc quelques éléments de généralité. Maintenant, comment lire ce livre? Comment on va lire le livre des rois? On peut le lire, je dirais, je lis du premier verset au dernier verset, oui certes, d'accord, mais avec quel état d'esprit? Eh bien, les deux côtés des... C'est un livre de récit. C'est un livre de récit. Alors, je vous ai dit que c'était un livre prophétique, mais ce n'est pas exactement comme, par exemple, Ésaïe, que vous aviez classé comme un long prophète parce qu'il a 66 chapitres, mais les chapitres sont courts, ou Jérémie, qui n'a que 52 chapitres, mais les chapitres sont très longs. Eh bien, c'est ainsi parlé à l'Éternel, et puis il y a des reproches, etc. C'est beaucoup de la parole de Dieu qui s'adresse à l'homme. Là, non, c'est juste ce qui s'est passé. Alors, parfois, Dieu intervient et dit une parole, ou par un prophète, mais en masse, ce n'est pas grand-chose. C'est essentiellement de l'histoire, du récit. Mais ce qui est très intéressant de voir, c'est que quand Dieu nous donne comme ça de l'histoire, c'est à la fois de l'histoire divine et de l'histoire humaine. Et c'est aussi un élément intéressant pour nous, parce que nous, quand on regarde l'histoire, eh bien, on n'a souvent que l'aspect humain. Et l'intérêt d'un livre comme celui-là, c'est de nous montrer qu'il y a l'histoire humaine qui se déroule, mais au-dessus, il y a quand même l'histoire divine. Et Dieu qui a un plan, et Dieu qui est le maître de l'histoire. Et c'est aussi, me semble-t-il, un des grands enseignements de ce livre. Alors, comme je le disais, eh bien, le récit biblique n'a pas simplement une dimension historique. Et il me semble qu'il faut le voir sous ces trois dimensions. La dimension historique, certes, mais aussi la dimension théologique et aussi la dimension littéraire. Et ces trois dimensions vont s'enrichir. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'on va avoir des histoires qui vont se dérouler, avec des événements qui vont se passer les uns à la suite des autres, etc. Mais ils sont agencés d'une certaine manière, donc avec un art littéraire consommé, et en même temps aussi, ils vont transmettre un message théologique. Parce que c'est comme cela que les Juifs ont reçu ces livres, puisqu'ils les ont classés dans les premiers prophètes, et c'est comme cela qu'à la suite des Juifs, auxquels les oracles de Dieu ont été confiés, nous avons nous-mêmes à les recevoir. Et donc, ça va nous donner une instruction sur la pensée de Dieu là-dessus. Quand nous abordons un récit du livre des rois, eh bien, je vous suggère de vous poser des questions. Vous posez des questions, où et quand? Par exemple, pour poser le contexte. Je vous ai mis cette frise chronologique très... simpliste tout à l'heure, mais après on pourrait rentrer dans plus de détails, où c'est que ça se passe et quand ça se passe. Et là, ça nous oblige à faire un pont avec ce que nous savons, ou ce que d'autres nous ont appris sur le contexte de l'époque. Parce que les événements qui se passent en moins 800, 2800 ans d'écart avec nous, dans un contexte économique qui n'a rien à voir, un contexte politique qui n'a rien à voir, eh ben, c'est peut-être intéressant de savoir un petit peu qui était Shalmaneser et pourquoi, effectivement, c'était un roi qui faisait flipper et pourquoi il se passait ceci ou cela. Donc, essayez de reprendre le contexte. Regardez aussi qui sont les personnages. Et là aussi, l'économie du texte biblique nous incite à voir les personnages que l'Esprit de Dieu veut mettre en exergue. Il ne va pas évoquer tous les personnages de la cour, loin s'en faut, ou faire un catalogue. Jamais. Il va juste nous donner ce dont nous avons besoin pour comprendre le sens théologique d'abord qu'il veut nous faire percevoir. Et puis l'intrigue. Bien souvent, le livre des rois est composé de ce qu'on appelle des péricopes, c'est-à-dire un récit qui forme un tout cohérent. Et puis, ben, il y a un problème, soit il y a une attaque du roi de Syrie, soit il y a une construction, soit il y a un prophète qui surgit, soit il y a une famine, que sais-je. Voilà. Il y a en général une intrigue, et puis l'intrigue se développe, et puis finalement ça se dénoue bien ou ça se dénoue pas bien, hein, d'ailleurs, au demeurant. Voilà. Et puis, ensuite, on peut avancer et se dire pourquoi ? Quel est le sens pour le narrateur ? Quel est le sens pour le narrateur ? Pourquoi il a pris ce récit-là ? En quoi est-il pertinent pour le propos qu'il vise, c'est-à-dire à expliquer pourquoi les rois, eh ben, ça s'est mal terminé. C'est ça son propos. Pourquoi ça s'est mal terminé ? Et donc, il est important aussi de se poser cette question-là, comment ce récit, cet épisode, ce miracle d'Élysée, cette victoire de Josaphat, ou que sais-je, eh bien, s'inscrit dans cette histoire-là, qu'est-ce que le narrateur voulait nous communiquer comme sens. Et puis, il convient de ne pas s'arrêter là, et après, et faire aussi des applications pour l'auditeur. Alors, j'y reviendrai dans un instant. Je pense aussi qu'il est très important de relever les éléments du texte lui-même pour en tirer des enseignements. Et donc, nous sommes invités à laisser parler le texte, ses détails, ses aspérités. Tiens, il y a un truc bizarre, pourquoi il y a cet adjectif par rapport à ce roi-là, qu'est-ce que ça nous dit, pourquoi Élisée un jour il se fâche, il est énervé, voilà, vous voyez, des trucs comme ça. Alors que ça a l'air d'être plutôt quelqu'un d'assez gentil. Noter les plans, les structures et les enchaînements, mais ça j'ai déjà indiqué. Et puis, ce sont des récits historiques, mais rien n'empêche qu'avec prudence et modération, nous cherchions à imaginer le récit au travers du contexte, des personnages ou de l'intrigue. La façon dont parfois les choses nous sont rendues, c'est très vivant. On a presque l'impression d'être au milieu de la bataille. Quand on voit l'archer qui, au hasard, tire une flèche, puis pam, ça arrive pile au défaut de l'armure du roi. Et il meurt. Alors là, c'est vraiment. Vous voyez, donc on aurait presque envie de faire une BD là-dessus. Alors, pour nous, comment on va voir ? Qu'est-ce qu'on va apprendre de ces livres ? Eh bien, il me semble qu'il y a trois angles d'études complémentaires. La première, c'est qu'est-ce que le texte va m'enseigner sur Dieu ? Et c'est ce que j'appelle une approche plutôt théologique. Et vous savez, on l'a souvent dit et il faut le répéter, dans la Bible, le seul héros, c'est Dieu. C'est Dieu. Et donc, quand on lit un livre biblique, la première des choses, c'est qu'est-ce que j'apprends sur le grand Dieu qui s'est révélé à moi par l'Écriture. Ce n'est pas Ézéchias qui s'est révélé par l'Écriture, encore moins Akab, même pas Élie. C'est Dieu qui se révèle, c'est Dieu, le Dieu d'Élie, comme il est dit, comme le dit Élisée. Donc, c'est Dieu qui se révèle à nous. Et comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, encore un verset de cette lettre pour cette matinée, Dieu a autrefois bien des reprises et bien des manières à parler à nos ancêtres par les prophètes, les premiers prophètes, donc le livre des rois. Et donc Dieu va nous parler. Dieu nous parle aujourd'hui, comme nous le chantons parfois dans Reflet. Et Dieu va nous parler pour nous parler de lui, de qui il est. Et donc ce livre des rois, ma prière pour nous cette année scolaire, c'est que nous découvrions un peu plus qui est notre grand Dieu, le maître de l'histoire, mais pas que, mais aussi dans tous les détails que nous allons pouvoir glaner tout au long de ce livre. Le deuxième angle d'étude, c'est ce que ce texte va nous révéler de l'homme et de son péché. Et donc ça, c'est une approche peut-être un plus morale. Et nous sommes invités en cela par 1 Corinthiens 10, verset 11, qui nous dit que toutes ces choses leur arrivèrent comme type, elles ont été écrites pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Il serait dangereux, à mon avis, quand nous lisons un texte historique comme celui-là, de se précipiter en disant « c'est quoi la leçon morale ? C'est qui qu'il faut imiter ? C'est qui l'exemple à suivre ?» Alors, nous pouvons en tirer des leçons morales, mais l'ordre, me semble-t-il, est important. C'est d'abord regarder ce que Dieu nous révèle et sur lui-même et sur ses plans. Mais aussi, nous pouvons en tirer des leçons. Des leçons, et Paul nous encourage à le faire, mais faisons attention aussi que, bien souvent, dans le livre des rois, comme dans tous les livres historiques, nous n'avons pas de commentaires qui soient donnés sur l'appréciation de Dieu sur telle ou telle conduite. Alors, parfois, c'est assez évident, hein. C'est sûr que quand le méchant Akab complote pour zigouiller le pauvre Naboth et lui piquer sa vigne, c'est pas la peine d'avoir un commentaire. Et cela fut mauvais aux yeux de l'Éternel. Bien d'accord, voilà. Mais dans d'autres cas, ça va être peut-être un peu plus compliqué de nous forger une opinion. Est-ce que c'est sur la portée morale? Et c'est là aussi où l'esprit peut appliquer, me semble-t-il, le texte de façon variée en fonction des circonstances des uns et des autres. Voilà. Mais néanmoins, il me semble qu'au travers de ces 47 chapitres, eh bien, nous pourrons avoir des éléments sur ce que nous sommes en tant qu'humains et aussi sur notre péché. C'est un petit peu ce que nous avons mentionné tout à l'heure pendant le culte. C'est vrai que ça ne sera pas forcément très joyeux, mais au moins ce sera réaliste. Et troisième approche, ce que le texte nous révèle de Christ et de l'espérance de sa venue. Et donc ça, c'est une approche plutôt christologique. Toutes ces choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation des Écritures, nous ayons espérance, nous dit Romains 15, verset 4. Alors là aussi, il faut faire attention de ne pas tomber dans le travers « Où est Jésus dans ce texte ?» Parfois, dans l'histoire du lion et du vieux prophète et du jeune prophète, Jésus n'est pas dans le lion, il n'est pas dans le... voilà. Mais alors, vous me direz, d'accord, mais alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut que quand Jésus disait que toutes les Écritures rendaient témoignage de lui, etc. Oui, elles rendent témoignage de lui, et c'est vrai que quand on voit Salomon et sa sagesse, on peut penser à la sagesse du Seigneur. Là, c'est évident. À la gloire de Salomon, à la gloire de Jésus-Christ, comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Mais parfois, et assez souvent dans ce livre des rois, il me semble que nous allons voir aussi Jésus en creux. C'est-à-dire que, et c'est pour ça là que j'ai mis l'espérance de sa venue, c'est-à-dire que, mais ça ne marche pas. Ben oui, ça ne marche pas. Ben oui, parce que tant que Jésus ne sera pas là, eh ben ça ne va pas marcher. Et c'est ce que ce livre, avec d'autres, va nous conduire à comprendre et à faire pousser cet appel, oui, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne. Et ça me permet d'enchaîner sur le thème que je voulais rapidement parcourir avec vous aujourd'hui, Jésus, le seul espoir. Et ça, c'est, me semble-t-il, la grande leçon de ce qu'on appelle l'histoire deutéronomiste, à la suite d'un érudit qui s'appelle M. Note, qui a noté, sans jeu de mots, qu'il y avait une grande cohérence entre le livre du Deutéronome et puis ces quatre livres des premiers prophètes que sont Josué, Juge, Samuel et Roi. Et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en particulier à partir de Deutéronome 17 et 18, on peut le démontrer de façon très, très claire. Et donc, on a une histoire qui se déroule en continu, hein, de Josué, Juge, Samuel et Roi. Donc, vous voyez, j'ai enlevé Ruth, parce que Ruth, dans la Bible hébraïque, il est ailleurs. Donc, on ne parle pas de Ruth, même si c'est un super livre, hein, mais ce n'est pas le sujet. Et on pourrait indiquer pourquoi. Et donc, on a cette chaîne continue historique qui, en fait, une fois que le peuple... le Deutéronome, c'est juste avant que le peuple entre dans le pays. Une fois que le peuple est entré dans le pays, ben, tout ce qui se déroule jusqu'à ce que le peuple sorte du pays pour partir en exil. Et donc, nous avons successivement la succession de Moïse et d'Aaron avec Josué, les juges et les sacrificateurs dans les juges, la fin des juges et le début de la royauté en Samuel, et puis rois et prophètes dans les rois. Juges, sacrificateurs, rois et prophètes. Ah, pourquoi c'est important? Parce que eh bien, finalement, ça nous ramène aux trois offices dans l'histoire du salut. C'est quoi ces trois offices dans l'histoire du salut? C'est la royauté, la prophétie et la sacrificature. Du temps où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et a traversé le désert, ces deux offices, ils étaient incarnés par deux personnes. Moïse était à la fois roi et prophète, puisque c'était lui qui dirigeait le peuple et c'était lui qui était le véhicule par lequel Dieu s'adressait au peuple. C'est lui qui avait reçu la loi sur la montagne, etc. Et Moïse et Aaron étaient, son frère était le sacrificateur. Puis, dans les décennies, dans les siècles qui ont suivi, eh bien, nous avons eu des successions de rois. Alors, au départ, c'était, j'y reviendrai dans un instant, plutôt des juges, et puis ensuite des rois, des prophètes et des sacrificateurs. Mais tout cela, finalement, a montré que ça ne marchait pas. Là aussi, j'indique la conclusion dès maintenant. Et que il fallait attendre quelqu'un. D'où cette espérance que fait naître notre lecture du livre des rois, l'espérance de quelqu'un qui sera à la fois roi, prophète et sacrificateur, bien entendu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous remarquerez ici qu'il n'est pas question des juges. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a eu deux phases dans cette longue histoire qui s'est déroulée donc à peu près de la fin du XVIe siècle jusqu'au début du VIe siècle, hein, donc sur un gros millénaire. Eh bien, il y a eu deux phases. La première phase, c'est celle de Josué et de Juges, et c'est une phase qu'on peut dire de théocratie directe, dans le sens où Dieu était directement roi sur son peuple, les juges n'étant que des moyens qu'il utilisait un peu temporairement pour ramener le peuple à son Dieu et le délivrer de l'esclavage de ses ennemis, selon le cycle que nous retrouvons à maintes reprises dans le livre des Juges, à 12 reprises. Voilà. Et le livre des Juges dit bien, et en ce jour-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui était bon à ses yeux. Et quand le peuple d'Israël demande à Samuel un roi comme les autres nations, dans le livre de Samuel, Samuel rappelle bien au peuple, l'Éternel était votre roi, et c'est lui que vous ne voulez plus comme roi, et c'est pour cela que vous voulez un roi. Et donc nous abordons à partir de Saül, David et Salomon, et puis les suivants, une seconde phase de la théocratie, qui est cette fois-ci une théocratie intermédiaire. Et donc Dieu a un représentant à la tête du peuple qui est le roi, et le roi domine sur le peuple d'Israël. Donc on est dans une situation un petit peu différente, et cela va induire un lien direct entre la déportation et l'infidélité du roi. Certainement, cela arriva par le commandement de l'Éternel contre Juda pour l'ôter de devant sa face à cause des péchés de Manassé. Et l'Éternel ne voulut pas le pardonner. Et donc, parce que Manassé a été horrible, eh bien, le peuple va être déporté. C'est ce que l'auteur du livre des Rois nous dit de façon explicite. Et donc, le peuple va aussi dépendre du roi. Et si le roi est mauvais, eh bien, le peuple sera conduit aussi à s'éloigner de Dieu. Et si le roi est bon, eh bien, on voit aussi dans cette histoire que le peuple, au moins en partie, est ramené à Dieu. Donc le roi se devait d'être le représentant de Dieu vis-à-vis du peuple d'Israël, d'où l'immense responsabilité du roi. Et alors, bon, il y a eu un essai avec Saül, ça a raté, mais après, nous avons 1 Samuel 16, l'Éternel s'est choisi un homme, un roi selon son cœur. Et David arrive. Ah, ben c'est super, tout va bien se passer. Et nous avons une promesse magnifique avec celle d'une dynastie durable. La magnifique alliance que Dieu conclut avec David en 2 Samuel 7. Quand tes jours seront accomplis et que tu dormiras avec tes pères, je susciterai après toi une semence qui sortira de tes entrailles et j'affermirai son royaume. Lui me bâtira une maison à mon nom et j'affermirai son trône pour toujours. Moi, je lui serai pour père et lui me sera pour fils. S'il commet l'iniquité, je le châtierai avec une verge d'homme et avec des plaies des fils des hommes. Mais ma bonté ne se retirera point de lui comme je l'ai retirée d'avec Saül et que j'ai ôté de devant moi. Et ta maison et ton royaume seront rendus stables à toujours devant toi. Ton trône sera affermi pour toujours. Quelle magnifique promesse! Mais, et c'est ça tout le drame de notre livre des rois, c'est que nous avons d'un côté cette magnifique promesse dans le livre de Samuel, et comment les choses vont-elles se dérouler? Eh bien, ça va mal se passer. Déjà, du temps de David, il suffit de tourner quelques pages après cette magnifique promesse que Dieu lui fait, et cette alliance unilatérale qu'il conclut avec lui, pour se rendre compte que finalement, David n'a pas été à la hauteur. L'adultère avec Bathsheba, le meurtre de Uri, la révolte d'Absalom, et puis d'autres turpitudes, finalement, salissent la fin du règne de David. Arrive son fils Salomon. Alors là, tout commence très, 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 très bien. Sauf que, déjà, quand on lit les chapitres 9 et 10, on se dit, oulala, ça commence à se gâter parce qu'on voit une hubris trop humaine de celui qui était pourtant avec cette sagesse divine et qui va accumuler beaucoup d'or, beaucoup de chevaux, beaucoup de femmes. Alors que c'était exactement le contraire de ce que Deutéronome 17 enjoignait au roi qui allait venir, qui allait être demandé de faire. Et finalement, il y a ce terrible « mais » qui commence le chapitre 11 du premier livre des rois, « mais Salomon aima beaucoup de femmes étrangères ». Et alors, cette fin de règne idolâtre est absolument terrible. Et il en résulte, directement impliqué par le texte, cette division en deux parties, du royaume unifié sous Saül, David et Salomon, on va avoir deux royaumes, le royaume au nord d'Israël qui va durer 253 ans, et puis le royaume au sud, avec 20 rois ici, aucun sera fidèle, 10 dynasties détruites par les Assyriens en 722 avec une déportation, et pas de l'autre côté, 20 rois, bon, 10 fidèles, 10 pas fidèles, une seule dynastie par contre, celle de David, mais ça sera détruit par les Babyloniens. Et c'est ça le drame du livre des rois. Et imaginez le pauvre Jérémie, il se retrouve vers l'an peut-être 580 ou 590, il est tout seul, puisque c'est après 586, il se retrouve en 580 tout seul ou presque avec Gedalia et puis d'autres pauvres miséreux dans ce pays de Juda. Il n'y a plus de roi. Le dernier roi, Joachim, il est au fin fond de Babylone. Il se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette promesse de David, que Dieu avait faite à David, elle est tombée en terre? Et pourtant, il y avait eu des prophètes. Parce que s'il y avait des rois et que les rois avaient échoué, Dieu avait quand même eu une solution. C'était de susciter ce ministère prophétique pour avertir les rois. Alors, jusqu'à Samuel, les prophètes sont rares ou occasionnels. Alors, on a quelques personnes qui sont qualifiées de prophètes, Abraham, Moïse, Marie, Déborah, etc. Mais les prophètes, le premier grand prophète, finalement, c'est Samuel, qui est à la fois le dernier des juges et le premier des prophètes. Et les prophètes vont prophétiser en complément avec les rois. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que les prophètes vont avoir un peu autorité sur les rois. Alors ça, c'est quand même assez frappant. C'est que on pouvait se dire que Dieu, qui déléguait son autorité sur le peuple à un roi, eh bien, aurait pu parler directement au roi. Mais le roi, l'hubris, quand on a le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Et donc, ils n'entendaient pas bien. Donc, Dieu envoie quelqu'un d'autre, le prophète, qui va donner des ordres au roi de la part de Dieu. Donc, il va un peu s'intercaler, finalement, entre Dieu et le roi, pour dire au roi, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses. Et alors, on a, par exemple, Akija le Sidonite, le prophète trouva Jéroboam sur le chemin, par Jéhu, fils d'Anani, le prophète, la parole de l'Éternel vint aussi contre Baïcha et contre sa maison. J'aurais pu multiplier les citations et nous les trouverons tout au long de notre livre. Mais ces prophètes un peu épars de Samuel à Élie, finalement, Dieu il va parler plus fort et il va susciter Élie le Tishbite avec les prophètes qui parlent. Donc, c'est ce qu'on appelle les prophètes oraculaires. Élie, puis Élisée, nous n'avons pas d'écrit d'Élie et d'Élisée. Ils n'ont pas laissé d'écrit, mais ils ont parlé fort, et on va voir qu'ils sont au centre. D'où cette partie très importante de 1 roi 17 à 2 rois 13, ce ministère d'Élie et d'Élisée, où le rédacteur centre le propos non plus tellement sur le roi, mais sur les prophètes qui vont agir pour essayer de ramener le peuple, pour essayer d'avertir les rois, etc. Et finalement, ils vont avoir une place centrale dans le royaume d'Israël qui était le plus éloigné de Dieu. Et on voit ce rôle majeur des prophètes dans un temps de déclin. Ah, on se dit, Dieu, il avait donné, plutôt le peuple avait exigé un roi, Dieu avait donné des rois, ça n'a pas marché avec les rois, mais grâce aux prophètes, c'est bon, ça va marcher. Eh bien non. Et on a aussi l'échec des prophètes en Israël. L'échec d'Élie le Tishbite, malgré ce qui s'est passé au Mont Carmel, apparemment tout marchait bien. Les gens se mettent à crier, vous savez, quand le feu descend sur l'autel qui était rempli d'eau et puis que 400 prophètes de Baal n'avaient rien réussi à faire. L'Éternel, c'est lui qui est Dieu, l'Éternel, c'est lui qui est Dieu. Oh là là, c'est un feu de paille qui a vite disparu. Et finalement, on s'aperçoit que le cœur du peuple n'est pas changé. Et malgré les miracles de jugement d'Élie, de Tishbite, ça ne marche pas. Alors, on va avoir un autre prophète qui lui va donner plus le côté de la grâce, c'est Élisée. Voilà, peut-être pas le jugement avec le tonnerre et les éclairs, mais la douce voix de la grâce d'Élisée. Eh bien, non, ça ne va pas marcher non plus. Malgré la considération dont Élisée bénéficie de la part de plusieurs rois, on voit que Élisée, il trouvait que c'était un gars bien, mais ils ne vont pas beaucoup l'écouter pour autant, malheureusement. Et donc, la conclusion divine, elle est très solennelle et elle vaut la peine d'être lue. L'Éternel rendit témoignage contre Israël et contre Juda, les deux, hein, le nord et le sud, par tous les prophètes, tous les voyants, disant « Détournez-vous de vos mauvaises voies et gardez mes commandements, mes statuts, selon toute la loi que j'ai commandée à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs, les prophètes. » Et ils n'écoutèrent pas et roidirent leur cou comme le cou de leur père qui n'avait pas cru l'Éternel, leur Dieu. Les fils d'Israël marchèrent dans tous les péchés que Jéroboam avait commis, ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel ôta Israël de devant sa face, comme il lui avait dit par tous ses serviteurs, les prophètes. Et Israël fut transporté de dessus sa terre en Assyrie, où il est jusqu'à ce jour. Cette terrible conclusion que le rédacteur insère dans la fin de ce chapitre 17, qui décrit la déportation des 10 tribus du Nord en Assyrie, sonne comme un glas sur l'efficacité du ministère prophétique. Alors ça, c'est pour le Nord. Bon, on va se dire, dans les derniers chapitres, pour le Sud, ça va se passer mieux. Mais non, l'échec des prophètes en Juda est tout aussi patent que l'échec des prophètes en Israël. On va se retrouver cette fois-ci avec des prophètes écrivains qui succèdent aux prophètes thaumaturges, hein, qui font des miracles. Et ces prophètes prêchent souvent ce qu'ils rédigent ensuite. Typiquement, Isaïe va prêcher, puis il va rédiger. Et Jérémie va prêcher, puis après il va rédiger par Baruch. Et la dernière prophétie d'Isaïe, dont il est question d'ailleurs dans ce livre des rois, c'est l'annonce de la déportation à Babylone, parce qu'Ézéchias a montré tout ce qu'il y avait dans sa maison, même si elle n'est pas dans l'ordre chronologique. Il n'est pas question de Jérémie, curieusement, dans le second livre des rois, ce qui m'inclinerait d'ailleurs à penser que c'est lui qui l'a rédigé, parce qu'il est modeste. Mais par contre, du même temps que Jérémie, il y avait une dame qui s'appelait Hulda, la prophétesse, qui est mentionnée pendant le règne de Josias, et ce règne était pourtant riche de beaucoup de prophètes. Il y avait aussi Habacuc, Sophonie, Jérémie qui prophétisaient en même temps. Mais les gens, quand il s'agit de consulter l'Éternel, on ne va pas voir ni M. Habacuc, ni M. Sophonie, ni M. Jérémie. On va voir Mme Hulda, intéressant d'ailleurs. Et elle habitait à Jérusalem, mais Hulda, elle a beau avoir une parole pertinente de la part de Dieu, et ben, ça ne va pas marcher non plus. Et la conclusion divine, elle est tout aussi triste que pour le royaume du Nord. L'Éternel envoya contre lui les bandes des Chaldéens et les bandes des Syriens et les bandes de Moab et les bandes des fils d'Ammon. Il les envoya contre Juda pour le détruire, selon la parole de l'Éternel qu'il avait prononcée par ses serviteurs, les prophètes. Donc vous voyez ces trois grandes périodes que nous avons dans l'histoire d'Israël. La période des juges, avec cette théocratie directe, les juges sacrificateurs, Samuel qui est un peu en pont, et puis la période des rois, avec des prophètes un petit peu discrets, puis ensuite grande période prophétique, mais tout cela, ça n'empêche pas qu'en 586, la catastrophe se produit. Mais tout serait vraiment très très sombre si nous n'avions pas le dernier paragraphe de notre livre. Ah, alors celui-là, il me plaît. Parce que c'est la conclusion de tous ces chapitres, tous ces longs livres, Josué, Juges, et surtout les longs livres de Samuel, longs livres des rois. Et il arriva en la 37e année de la transportation de Jéhoiakim, roi de Juda, au 12e mois, le 27e jour du mois, qu'Évil-Mérodac, roi de Babylone, l'année où il commença de régner, éleva la tête de Jéhoiakim, roi de Juda, et le tira de sa prison. Il lui parla avec bonté et mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone, et il lui changea ses vêtements de prison, et Jéhoiakim mangea le pain devant lui constamment tous les jours de sa vie. Et quant à son entretien régulier, un entretien continuel lui fut donné de la part du roi, jour après jour, tous les jours de sa vie. Ah, c'est intéressant ça. Jéhoiakim, c'était celui qui était l'héritier de la couronne de David, en ligne directe. Il y avait eu son grand-père Josias, ensuite son père Jéhoiakim, et puis Jéhoiakim. Après, ce n'était pas lui le dernier roi, il a été le 19 sur 20 parce qu'il y a eu son oncle Sédécias qui a régné, mais Sédécias était finalement plus un prince qu'autre chose puisque Jéhoiakim avait déjà été transporté en 597 à Babylone. Et Jéhoiakim a passé 35 ans en prison. 35 ans en prison, jusqu'à ce qu'en 562, Evil-Merodach, qui succède à Nebuchadnezzar sur le trône de Babylone, eh bien, décide de le sortir de sa prison. Et donc l'héritier en ligne directe de la lignée de David se trouve élevé, et vous aurez remarqué, numéro 2 presque, hein, au-dessus des rois qui étaient avec lui à Babylone. Et donc, si l'auteur du livre des rois termine, et le livre se termine comme ça, hein, pouf, termine par ce petit récit en codicille, c'est bien pour nous dire, mais la promesse de 2 Samuel 7, mes amis, elle n'est pas tombée. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à l'alliance qu'il avait conclue avec David et à sa descendance. Il y a un espoir qui existe encore pour un rejeton du trône d'Isaïe. Et plus de 150 ans avant, le prophète avait dit, et il sortira un rejeton du trône d'Isaïe, et une branche de ses racines se fructifiera, et l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. C'est comme si vous imaginiez un bel arbre, il a été tranché. On ne voit plus que la souche. Comme bout de tronc qui est là. Et puis, à un moment, la vie reparaît. Il y a une petite branche avec trois feuilles vertes. Et là, c'est cette promesse que nous donne la fin du livre des rois. Alors, l'histoire deutéronomiste nous donne des leçons. C'est que tout ce qui a été essayé a été insuffisant et a échoué. N'importe quelle institution humaine, même si elle est donnée par Dieu, est incapable de résoudre le drame de l'humanité, le péché omniprésent. Les sacrificateurs, les rois et les prophètes humains en sont incapables. Donc Jésus est vraiment notre seul espoir. Et donc il y a cet espoir qui est là devant nous. Mais chers amis, ce qui se passe aussi, c'est que nous avons de la peine parfois à mettre notre espoir en Jésus. Nous mettons notre espoir de façon confuse mais tenace dans ce qu'on a pour appeler un homme providentiel, soit un roi, le dirigeant politique qui remettra l'économie, la société, les institutions en bon ordre. Ben oui, va apporter enfin du nouveau. Bon. 2017, on a vu ce que ça donnait. Les prophètes d'aujourd'hui, qu'ils soient sociologues, économistes, penseurs, philosophes, etc., on va mettre l'espoir en eux. Ben oui, ils ont de bonnes idées. Mais ces idées sont bien souvent impossibles à appliquer effectivement parce que la matière, la pâte humaine reste telle qu'elle est corrompue. Ou alors même les personnes providentielles dans notre vie. Je mets mon espoir dans ce médecin, dans ce conseiller, dans ce psychologue, que sais-je. Ou même, ça peut même être dans l'Église, le pasteur providentiel, l'ancien qui est indispensable, ou le prédicateur qui va enfin me dire comment je peux me débarrasser définitivement du péché. Ça ne sert à rien de mettre son espoir dans l'homme. Cet espoir, il sera toujours déçu. Toujours déçu. Toujours, toujours, toujours. Et 47 chapitres, on nous l'apprend. Et Jésus est cet homme providentiel, parce que lui est le parfait sacrificateur par son œuvre expiatoire, il est le parfait roi par sa seigneurie sur notre vie, et il est le parfait prophète par sa parole puissante. Gloire à lui.